TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud.
Alors, on va reparler de Shavuot, suite au cours qu'on a déjà fait sur Shavuot, mais là, on va aller un peu plus loin. On a parlé, dans le cours précédent, du rapport entre l'Omer, Shavuot, l'Ag BaOmer. Là, on va parler de Shavuot lui-même, du don de la Torah. Et il y a écrit dans la Gemara, dans Perhet, Gemara très connue, Bitiatsu Betarti Tarar, le pasouk dit que le peuple juif était sous la montagne. Amar Avavdimi, Bachama, Bachasa, le Rav dit, mais la Med, ils étaient sous la montagne, la Gemara prend le pasouk à la lettre, sous la montagne, c'est pas qu'ils étaient au pied de la montagne, mais ils étaient sous la montagne. C'est-à-dire que s'ils regardaient en haut, il y avait une montagne sur la tête. Quelle montagne? Mais la Med, ça nous enseigne. Chez Kappa, Kadosh Baruch Hu Alem, et à Ark et Gigit, Dieu a pris la montagne comme une Gigit, on va dire que c'est un tonneau de vin. Il leur a dit, si vous acceptez la Torah, mutav, ça va bien. Sinon, sham, tiouk, voterem, là-bas sera votre tombeau. Première partie. Donc Dieu donne la Torah de façon incroyablement violente. En disant, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien c'est la mort. Il y a plusieurs questions. D'abord, pourquoi comme un tonneau? Deuxièmement, pourquoi il dit sham, là-bas? Il aurait dû dire kan, ils étaient là. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'il donne la Torah comme ça? Tosfot pose une question encore plus forte. Tosfot dit, Hafalpi shegva ikdimu naaseh v'nishma. Ils ont déjà dit, le peuple juif a déjà dit, nous ferons et nous comprenons. En d'autres termes, le peuple juif a déjà accepté la Torah. Ils ont accepté la Torah. Ils ont dit, tout ce que nous dira Dieu, nous ferons. Et nous comprendrons après. Donc, ils ont accepté la Torah. C'est comme si j'avais décidé d'acheter une maison. Je rentre chez le notaire, j'ai le vendeur en face de moi, je suis prêt à acheter la maison, le vendeur sort son pistolet, dit, ou vous acceptez d'acheter ma maison, je vous tue. Bon, d'abord, c'est pas poli. Et secondement, il n'y a pas besoin de faire ça, j'ai déjà accepté d'acheter la maison, je suis là pour ça! Donc, quel est le sens de cette violence? Quel est le sens de cette coercition? Quel est le sens de cette menace de mort? Alors, il y a énormément de réponses. Et on va essayer de les hiérarchiser. Première réponse, on va prendre celle de Tosfot. Qui dit quelque chose de fabuleux. Il dit, Shema yu chozrim kesheiru ahesh agdola sheatzta nishmatam. En d'autres termes, Shema yu chozrim. Bon, ça aussi c'est une réponse, on pourrait dire Shema yu chozrim, sheyarzeru. Mais en tous les cas, on va dire comme ça, Tosfot dit quoi? On ne veut pas qu'ils ne reviennent sur leur engagement. Parce que pourquoi pourraient-ils revenir sur leur engagement? Parce que quand on a reçu la Torah, il y a eu un feu, Eshak Dola, un feu immense. L'âme est sortie et l'âme est revenue. Ce traumatisme de la révélation est tellement puissant qu'il peut provoquer un recul, un désengagement, une résiliation de l'engagement qu'on avait donné d'accepter la Torah. Et ça, c'est le premier enseignement. En d'autres termes, il y a un système ici. Le don de la Torah n'est pas un don ordinaire. C'est pas « j'accepte de devenir tzaddik »,« j'accepte d'acheter un appartement »,« j'accepte de me comporter comme un juif ». C'est pas ça. Recevoir la Torah, derrière un gars, c'est pareil pour une conversion, devenir juif, c'est d'être possédé, d'être saisi à la deuxième personne, d'être dépossédé de sa maîtrise, de sa puissance, de son équilibre. Je deviens le sujet de Dieu. Être juif, alors ça serait peut-être une nouvelle définition. Être juif, c'est de devenir le sujet de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es plus la centralité de ta vie. La centralité de ta vie se joue ailleurs, elle se joue dans un ailleurs, elle se joue dans un feu immense, qui est la parole de Dieu. Tu es plus nucléarisé, c'est plus nucléaire, c'est plus le noyau, c'est plus toi. Tu deviens un élément d'une tragédie qui finira magnifiquement bien, si on fait ce qu'on fait, pas comme la tragédie grecque qui finit dans le tragique, une tragédie au sens où, à un moment donné, je suis dépossédé de mon destin pour retrouver mon destin. Tosfot nous enseigne que l'engagement ne suffit jamais. Je veux devenir un tzaddik. Très bien, mais dès que tu arrives après dans les faits, tu recules. À Kippour, on est là. À l'Aneïla, on veut devenir des tzaddikim, on est des anges. On veut s'approcher de Dieu. On jeûne depuis déjà 24 heures. On prie de toutes ses forces. On décide de devenir un tzaddik à l'image du Baal Shem Tov, à l'image du Gaon de Vilna, à l'image des grands tzaddikim. On veut devenir comme eux. Juste après Kippour, on sonne le chauffard, on rentre à la maison, quelqu'un te vole ton gâteau, tu lui cries, tu l'insultes, tu commences à parler football, du lachona, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment c'est possible? C'est le retour du même. Le péché est logé dans le même, dans l'identique, dans le corps, dans la toute-puissance des choses qui reviennent sur eux-mêmes. La circularité de la vie. La Torah casse cette circularité et t'ouvre vers l'infini. Mais cet infini, tu ne peux pas. Il faut bien entendu, c'est ta condition nécessaire, mais pas suffisante. Tu as besoin de désirer le feu. Tu as besoin de désirer l'infini. Tu as besoin de dire Naaseh v'nishma, qui est un abandon de son esprit. Je sais que je suis choisi par Dieu. Mais tout ça ne suffit pas. Il faut que Dieu te possède. Il faut être saisi par la main de Dieu. Il faut avoir le mérite d'être saisi parce que Shema Yarzeru Bahem, parce que par définition, l'homme revient à la case départ. Grandir, c'est un miracle. Changer, c'est un miracle. La plupart des gens, ils ne changent pas. Ils restent comme ils sont. Changer, grandir, gravir les échelons des Midot Tovot, arriver à la vérité splendide de la Torah, devenir un Ben Torah, devenir un Eved Hashem, de devenir un sujet de Dieu sur terre, de devenir un chevalier du judaïsme, de devenir un chevalier de la vérité, de devenir un héros du grand feu. Ça demande une élection, ça demande une possession divine. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être pris. Et il faut désirer, prier, que Dieu te prenne, que Dieu t'accepte. C'est ça l'élection, c'est ça le pshat de Ham Segula. Tu as été pris au-delà de ta volonté, pas contre ta volonté, parce que tu voulais, mais au-delà de ta volonté. Tu as été jeté dans un système qui dépasse tes forces. Chez l'égoïme, c'est la dérilection. C'est le contraire. L'homme est jeté dans le monde, dans l'absurde, il ne sait pas ce qu'il fait là. Alors c'est la tragédie grecque, il cherche son sens, bon. Chez le juif, c'est une dérélection à l'envers. C'est une élection. C'est-à-dire qu'on te prend et hop, on te projette dans le ciel. Mais qu'est-ce que je fais dans le ciel? Qu'est-ce que je fais là-haut? Très souvent, des grands tzadikim, ils étudient, surtout chez les Baltchouas, mais c'est magnifique de voir ça. Ils étudient la Torah, ils grandissent, ils sont magnifiques. Et tout d'un coup, ils ont, hop, ils disent, mais qu'est-ce que je fais là-haut? J'ai envie de, tiens, il y a le match de foot, la finale de Coupe de France, ou la finale de Coupe d'Europe. Il y a 3 ans, j'étais là-bas avec mes copains. Et tu vas redescendre dans les marécages. Mais non, Dieu t'a mis là-haut. Il t'a mis au Beta Midrash avec tes livres, c'était magnifique. C'est ça l'élection. Donc, la Torah, c'est pas j'accepte la spiritualité, j'accepte de devenir meilleur, je rentre. Non, 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 ça c'est bourgeois, ça c'est les yogistes et les bouddhistes, tous les gens là qui utilisent la spiritualité pour se sentir mieux dans leur peau, pour sortir de leur traumatisme avec leurs parents, pour se faire une nouvelle peau, tous ces trucs-là. L'horreur. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est tu es arraché de ton existence et on te jette dans le ciel, mamache. On te jette dans les étoiles. Et hop, tu planes parmi les étoiles. Qu'est-ce que je fais là? Tu as été choisi par Dieu. C'est ça le pshat, d'après Tosfot. Deuxième pshat, qui est. Et je dis que c'est hiérarchique parce que l'un va plus profondément que l'autre. Le deuxième chat qui est donné par beaucoup de Rishonim, c'est, il est encore plus simple, mais il est plus fondamental. C'est que tu ne peux pas, le Maharal de Prague parle beaucoup de ça, tu ne peux pas choisir la Torah. Bien sûr que vous aviez choisi la Torah, mais tu ne peux pas choisir la Torah. Pourquoi? Parce que si tu choisis la Torah, ça veut dire que la Torah dépend de ton choix. Et alors ? Ben, si elle dépend de ton choix, elle est anecdotique. Elle est anecdotique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas essentielle. C'est-à-dire que la Torah ne peut pas être l'objet d'un choix, parce qu'un choix, ça peut toujours se dédire. Un choix, ça peut toujours se délier. Un choix, c'est moi qui choisis autre chose que moi. On te dit, non, il n'y a pas toi, et tu choisis autre chose que toi. C'est ou la Torah ou la mort. Ça veut dire que il faut que tu comprennes que de la même façon que l'homme cherche la femme et la femme cherche l'homme, parce que chacun, on a arraché la côte de l'homme pour choisir, pour faire une femme. Maintenant, quand l'homme cherche la femme, il cherche lui-même. Bon, on pourrait faire un coin sur Schlombeit, sur le zouk, sur le mariage, mais en vérité, se marier, c'est se retrouver soi-même. C'est retrouver une plénitude perdue. Or, la Torah, c'est ça le grand secret. Elle est en même temps radicalement autre. La Torah n'a aucun rapport avec l'humanité, au point où quand Moïse était là-haut, on lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici. Les anges ont dit, mais c'est pas pour les hommes, la Torah. C'est-à-dire que la Torah, radicalement, elle a été créée 974 générations avant la création du monde, donc elle est plus ancienne que le monde, donc elle n'a aucun rapport avec l'homme. Et pourtant, c'est ça le Tselem Elohim. Et pourtant, cette étrangeté radicale est une partie de moi-même, au sens que la définition de moi-même n'est pas réduite à moi-même. Mais la définition de moi-même excède ce que je suis, au sens où Adam Arikshon, c'est les lettres de Mehod, qui veut dire Adam Mehod, beaucoup. C'est-à-dire que la définition de l'homme, c'est d'être plus que ce qu'il est. C'est-à-dire que la définition de l'humanité, c'est d'être concerné par quelque chose qui n'est pas moi, et qui est infiniment plus grand que moi, et qui pourtant, sans ça, je ne suis plus un homme, je suis une bête. Être homme, c'est d'être concerné par un excès, par quelque chose qui est Mehod, quelque chose qui est plus que moi. C'est être concerné par la Torah. Ça veut dire que la Torah est en même temps radicalement différente, est en même temps l'essentiel de ce que je suis. Vous allez me dire comment ça marche? Ben, elle n'est pas ce que je suis parce qu'elle ne se présente pas sous les modalités identitaires. Mon bras, c'est moi. Mon appétit, c'est moi. Mon orgueil, c'est moi. Ma volonté puissante, c'est moi. Mes besoins, c'est moi. Ma psychologie, c'est moi. Mes parents, c'est moi. La Torah, ce n'est pas dans la même catégorie du moi. Celui qui fait la Torah, j'ai besoin de la Torah pour vivre, c'est, il réduit la Torah à de la matière. Mais la Torah, c'est moi, au sens où c'est pas moi. Mais sans ça, je suis à jamais perdu. L'homme devient, il n'est pas. Le juif devient, il n'est pas. Il est un futur perpétuel. Il est une aspiration. Il est une aspiration à être plus. Et cette part de la Torah doit être recherchée comme si j'avais perdu ma côte. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir la Torah parce que c'est ou la Torah ou la mort. Parce que ta vie n'a de sens que si tu vis avec la Torah. En d'autres termes, celui, Shavuot, celui qui prend la Torah comme une option, comme pourquoi pas, comme c'est super, même s'il prendrait la Torah comme le meilleur des systèmes religieux, il serait complètement à côté de la plaque. Accepter la Torah, c'est accepter sa dimension d'infini qui est ou cela ou la mort. Ou cela ou ça ne vaut pas le coup de vivre. Si tu prends la Torah comme une couche de culture ou de spiritualité supérieure à ton existence, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le coup de vivre. Ça ne vaut le coup de vivre que si tu prends ton existence comme essentiellement Torah. C'est pour ça qu'ils sont tous morts, qu'ils sont tous ressuscités. Pour te dire, avant la Torah, c'était la mort. Maintenant, tu reçois la Torah, tu ressuscites comme une Torah qui est mechouyav hamitziout, qui est l'essentiel de ta présence au monde. C'est être capable de transformer ton existence en Torah. Donc tu ne peux pas choisir ça, puisque tu es possédé par cette Torah. Le troisième niveau, encore plus profond, c'est que la Torah ne peut pas être choisie. Pourquoi ? Parce que tu ne choisis pas la Torah, tu es choisi par la Torah. Et ça, ça pourrait dire que tu ne choisis pas le bien, tu es choisi par le bien. En d'autres termes, ici on nous enseigne que la responsabilité de répondre à un appel de Dieu est plus fondamentale que la liberté. Choisir, c'est être libre. C'est ça d'ailleurs la liberté. La définition de la liberté, c'est choisir. C'est pour ça qu'un juif est plus libre que les autres peuples, parce qu'il y a plein de mitzvot. Paradoxalement, plus il y a des mitzvot, plus il y a des choix. Les goyim ont 7 mitzvot, donc ils ont 7 fois le choix de faire le bien et le mal, donc ils sont 7 fois libres. Les juifs ont 613 mitzvot, multipliés par des milliers, par des rabananes, donc ils ont des milliers d'occasions de choisir, d'être confrontés à la béchira, à la liberté. Donc ils sont 1000 fois plus libres. Donc choisir, c'est la liberté. Mais la liberté, le point névralgique de la liberté, c'est moi. C'est ma conscience, c'est ma volonté. Oh, avant tout, l'homme est mémoire. Il est mémoire d'un appel plus ancien que lui-même, qui lui dit « Allô, allô, Avraham, Avraham, Anochi. Yitzhak, Yitzhak, Anochi. Yaakov, Yaakov, Anochi. Moshe, Moshe, Anochi. » Et chacun d'entre nous, Raphaël, Raphaël, Anochi. Julien, Julien, Anochi. Dieu appelle. Il y a un appel qui est la révélation d'un ordre d'obligation qui est plus fondamentalement définissant mon essence que ma liberté, que mon béchira, que ma béchira. Ça veut dire que je suis avant tout un humain, et en vérité un juif, parce que je suis disposé à répondre à l'obligation de faire le bien avant même toute conscience de liberté individuelle. Je suis avant tout celui qui dit « Anochi », qui dit « Je dois faire ce qu'il faut faire. Et je dois faire le bien. » Vous vous rendez compte que ça veut dire comme idée, c'est une idée énorme. Ça veut dire que l'homme n'est pas défini par la liberté. Le juif, en tous les cas. Chez l'égoïme, c'est le contraire. Chez l'égoïme, la liberté, c'est la chose la plus sacrée. C'est chez les juifs aussi. Hein. C'est nous qui avons inventé le concept de liberté. Mais la Bechira Chofshit. Mais elle n'est pas première, elle est seconde. Le premier, c'est que l'essence de l'homme, c'est qu'il est assigné. Il est infiniment responsable pour la douleur de l'autre. Pour quand un enfant vient me demander à manger, ça court-circuite toute ma liberté. Je suis obligé de lui répondre, de lui donner à manger. Ce qui est extraordinaire, c'est quand quelqu'un vous adresse la parole, vous l'écoutez avant même d'écouter ce qu'il dit. Ça veut dire que vous êtes dans un mouvement où vous êtes, votre assignation à lui répondre est plus fondamentale que votre propre présence à vous-même. Ça veut dire qu'on expérimente à chacun niveau de la vie cette notion fondamentale du définition de l'humain selon la Torah, qui n'est pas la liberté, mais la responsabilité au sens où je suis tout le temps interpellé par un ailleurs et je me dis « Anochi, je suis prêt à y aller ». Ça veut dire que je suis avant tout l'être humain est d'autant plus grand qu'il est sensible à l'exigence éthique, à la réponse morale, à la réponse spirituelle que chaque événement organise. Plus je me ferme à la détresse de l'autre, plus je m'en fiche complètement du problème des autres, plus je me ferme à l'appel de la compréhension de la vérité, plus je vis dans ma coquille égotique, plus je ressemble à un cannibale, plus je ressemble à un âne batté, et je suis qu'un âne batté, il faut le savoir. Parce que l'intelligence et les midot, c'est un dans la Torah. Si je ne suis pas capable de m'ouvrir à la détresse de l'autre, je deviens un idiot total. Pourquoi ? Parce que je me ferme à cette dimension d'ouverture à l'altérité qui est le propre de l'intelligence, qui est la capacité de répondre à l'appel d'un ailleurs, aussi bien intellectuellement qu'émotionnellement, que sentimentalement, que physiquement, donner à la main qui se tend. Donc cette Torah qui t'est donnée, c'est de dire l'essentiel de la vie, c'est pas à partir de moi. Je fabrique pas une existence à partir de ma propre volcanique liberté. Je construis une existence à partir d'une posture où on m'appelle et je réponds. On m'appelle et je réponds. Et plus je réponds à ces appels, plus j'agrandis mon essence qui devient polyvalente au sens où elle répond à plein d'appels. C'est ça la définition du juif. Donc, je ne choisis pas la Torah, je suis choisi par la Torah. Parce que fondamentalement, on ne choisit pas le bien, on est choisi par le bien. Quatrième niveau. Alors là, on est dans le plus haut niveau, qui est l'essence de l'essence. c'est que l'homme, fondamentalement, ne peut pas choisir la Torah, parce que choisir, c'est penser. Et l'homme ne peut penser que parce qu'il a la Torah. Alors, ça veut dire quoi? C'est très simple. Je crois qu'on a déjà parlé de ça ici, mais c'est pas grave. L'homme ne peut penser que parce qu'il est spirituel. L'homme ne pense pas. Il n'est pas spirituel parce qu'il pense, mais l'homme pense parce qu'il est spirituel. En d'autres termes. Qu'est-ce qui fait qu'un animal ne pense pas? Qu'est-ce qui fait qu'un ordinateur ne pense pas? Qu'est-ce qui fait qu'une matière, c'est de la matière? Ça ne pense pas. Ça ne pense pas. Qu'est-ce qui fait que la matière n'a rien, ne développe pas des idées? Qu'est-ce qui fait que l'homme a des concepts? C'est pas la multiplication des neurones. On pourra mettre autant d'intelligence artificielle dans les ordinateurs, ils ne penseront jamais. Qu'est-ce qui fait que l'homme pense? L'homme pense parce qu'il a été arraché de la matière. Penser, c'est sortir de la matière. Or, comment on sort de la matière? Exister. C'est extens, sortir de la matière. Mais comment on sort de la matière? Comment ça fait que l'homme sort de la matière? C'est un miracle? Oui, c'est un miracle. Mais il vient de où, ce miracle? C'est très simple. C'est la lumière de Dieu qui frappe le visage humain, qui par cette claque lumineuse, divine, arrache l'homme de la béatitude, de la somnolence de la matière, et qui fait qu'il est en même temps lui et en même temps autre chose. Il est traversé par une lumière d'un ailleurs, de Dieu, qui fait qu'il n'est plus un, donc il est deux. Donc on est dans le réfléchir. Réfléchir, c'est reflet. Reflet. Il peut maintenant continuer, commencer à dire un, deux, un, deux. Oui, non. Bien, pas bien, mal, pas mal. Des valeurs, des concepts, des idées. Donc le concept né du choc de ce que la Kabbalah appelle Haka, c'est la claque divine lumineuse que Dieu donne à l'homme pour l'arracher de la matière, qui fait qu'il peut penser. Donc, un athée qui pense, il y en a peu, hein, la plupart des athées ne pensent pas, mais un athée qui pense, il le doit, parce que fondamentalement, il a reçu, il le doit que grâce à Dieu. En fait, il n'y a pas d'athée. Parce que l'acte même de ne pas croire, c'est une pensée, d'une pensée qui vient de l'acte fondamental spirituel. Il n'y a pas de possibilité de penser sans acte spirituel. La pensée vient de la spiritualité. Donc l'homme n'est pas spirituel parce qu'il pense, il fabrique des idées, ça c'est bidon. L'homme a la capacité cognitive de penser parce que fondamentalement, il a été concerné par un ailleurs qu'il a constitué sa pensée. Donc en vérité, c'est le fait que Dieu existe que l'homme peut penser. Donc je ne peux pas choisir la Torah. Puisque la Torah était la cause originelle du fait de penser. Or, choisir, c'est penser. Donc, je ne peux choisir que parce qu'il y a la Torah. Donc, je ne peux pas choisir ce qui fait que je pense. Je ne peux pas choisir ce qui fait que je choisis. On ne choisit pas sa mère. On ne peut pas choisir ce qui fait que je pense. Donc, la Torah, Arkegigit, elle est impossible à choisir parce que c'est elle qui fonde la possibilité du choix. Amen, Yavin. C'est ça le pshat, Gilit, le vin. Le vin, c'est l'enivrement, c'est shivim. C'est Gamatria 70, c'est le secret. Le secret, l'enivrement, c'est toujours un dépassement. C'est toujours quelque chose qui te sort des limites. La Torah te sort des limites, te sort de l'abrutissement catégoriel de la pensée politique, philosophique, psychologique qu'on nous déverse à longueur de journée dans les réseaux médiatiques. C'est pour ça qu'il y a écrit « Sham Velokan ». Parce que l'essence de l'homme, c'est d'être Torah. Si vous mourrez, c'est que vous êtes ailleurs. Vous êtes dans le mauvais ailleurs. Vous êtes à côté de la plaque. C'est ça le sens profond du don de la Torah. Et donc, à Shavuot, quand on reçoit la Torah, il faut analyser ces quatre niveaux. Un, est-ce que j'ai mon engagement vers la Torah est assez authentique pour avoir été saisi par Dieu? Est-ce que j'ai expérimenté dans la vie de vouloir faire quelque chose? J'ai failli ne pas y arriver et les circonstances dites, en réalité du miracle divin, mais camouflées, ont fait que j'ai quand même réussi. Premier niveau, d'être saisi par Dieu. C'est le premier niveau de l'élection. Deuxième niveau, est-ce que je considère la Torah comme un surplus dans mon existence? Ou est-ce que je ne peux pas m'envisager moi-même sans Torah? C'est sur ces choses-là qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'en vérité, je suis un bon goy, mais au lieu d'aller faire du tennis le dimanche matin, je vais à la synagogue le samedi matin? Ça veut dire c'est mon passe-temps, c'est mon hobby, c'est super. C'est pas la Torah. Est-ce que je peux envisager mon existence sans Torah? Si c'est comme ça, je suis pas la Torah. Ou c'est inimaginable puisque la Torah c'est mon essence. Troisièmement, est-ce que ma vie est structurée, ma vie morale n'est toujours dans la maîtrise? C'est toujours moi qui décide ce qu'il faut faire? Ou à un moment donné, je réponds à des appels? Je suis obligé de faire des choses parce qu'il faut les faire, parce que c'est bien et c'est tout. Et quatrième niveau, est-ce que ma pensée est une pensée qui vient du choc spirituel ou je répète des idées que j'ai entendues dans le circuit de l'information générale? Est-ce que je pense au sens où je suis capable de réfléchir à partir d'une spiritualité, pas à partir de l'opinion qui m'est communiquée, de l'opinion générale qui m'est communiquée? Recevoir la Torah, concrètement, c'est ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces quatre niveaux, qui sont l'essence même de l'intelligence juive, basculent, se coordonnent avec la dimension de Shavuot. On lit Ruth, certains lisent Ruth, Megillat Ruth, la naissance de David Ameler. Parce que David Ameler, c'est le Mashiach. Et David Ameler, qui est le Mashiach, est né à Shavuot. Et il est mort à Shavuot. Le même jour, pourquoi? Pour te dire que la Torah n'est Torah que si elle est capable de s'incarner dans le monde. Que si elle arrive à Malchut, que si elle devient réalité. Quand on a traversé la mer Rouge, le Hanukkah traduit que la mer est devenue, a pris des formes, il traduit que la mer est devenue intelligente. La mer, l'eau, c'est la matière. C'est le Chomer. Prend toutes les formes. Comme la pâte à modeler l'eau, elle prend toutes les formes. Comme la pâte à modeler, c'est la matière. Elle devient intelligente. C'est Malchut. Ça veut dire Malchut, ça veut dire comment la vie elle-même, l'existence elle-même devient Torah. C'est ça David Ameler, c'est ça le Mashiach. C'est comment la vie elle-même devient Torah. Donc tout ce qu'on a dit n'a de sens que si à un moment donné, peu à peu, l'existence elle-même, à travers le Shabbat, à travers la Tzedaka, à travers mon rapport à mes enfants, à ma femme, à mes parents, à mes amis, à la vie, par rapport à mon rapport à la nourriture, par rapport à mon rapport à l'argent, à la parole, que tout ça devient Torah. Qu'il n'y a pas un événement existentiel qui ne s'inscrit pas dans une extraordinaire beauté de Torah. Aleva Eleinu, Vechag Sameach.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.